Bien, nous pouvons reprendre notre voyage du Brésil. Donc le troisième livre, sans doute connu par Montaigne, même si la publication en est de 1578, donc peu de temps avant la date que l'on doit supposer comme la date finale d'écriture ou révision des essais publiés en 1580. C'est le livre de Léry, le titre long en est le suivant, dans l'édition de 1578, pardon, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique, contenant la navigation et choses remarquables vues sur mer par l'auteur. Le comportement de Villegagnon en ce pays-là, les mœurs et façons de vivre étranges des sauvages américains avec un colloque de leur langage, ensemble la description de plusieurs animaux, arbres, herbes et autres choses singulières et du tout inconnues par-de-ça, dont on verra les sommaires des chapitres au commencement du livre. Et est ajouté, non encore mis en lumière pour les causes contenues en la préface, le tout recueilli sur les lieux par Jean de Léry, natif de la Margelle, terre de Saint-Séné au duché de Bourgogne, une citation d'un psaume, « Seigneur, je te célébrerai entre les peuples et te dirai psaume entre les nations », et l'adresse La Rochelle, mais qu'on peut penser être une fausse adresse pour Genève, en 1578. Donc le titre intéressant, comme vous le voyez, « Chose remarquable vue sur la mer par l'auteur », donc l'insistance toujours sur cette idée de l'observation, du témoignage direct, et du tout inconnu par-de-ça, puisque le livre de Léry est organisé sur cette tension, opposition, comparaison entre le monde de par-delà, l'Amérique, et le monde de par-de-ça, l'Europe et en particulier la France. Lorsqu'on lit les préliminaires, ce qui est important, on voit que ce livre de 1578 est dédicacé au fils de Coligny, c'est-à-dire une manière de vouloir rendre grâce et louange pour l'amiral qui a été à l'origine de l'expédition de la France antarctique et qui a été ensuite trahi par Villegagnon et qui est, selon Léry, calomnié par Thévet. Et la préface est particulièrement intéressante parce qu'elle est, comme dans beaucoup de textes du XVIe ou XVIIe siècle, un récit de publication. J'en donne les étapes. Léry, qui était donc un cordonnier genevois qui fait partie de l'expédition des 14 protestants calvinistes demandés par Villegagnon, envoyés par Calvin dans la France antarctique. Il arrive au Brésil le 19 novembre 1556 et en repartira le 4 janvier 1558. Et dit-il, il faisait des relations, des récits de bouche, des relations orales de son voyage et de son séjour, ayant avec lui des manuscrits qu'il avait rapportés du Brésil et qu'il décrit comme étant écrits d'encre de Brésil. À la sollicitation de ceux qui l'écoutent, il rédige à partir de 1563 ce qu'il désigne comme un assez ample discours et il est copié par un secrétaire et ce manuscrit, qui était la copie au propre, remis à un ami, est perdu ou confisqué dans le contexte des guerres de religion à Lyon, à celui qui le possédait. Du coup, Léry réécrit son livre à partir des brouillards, c'est-à-dire des brouillons du manuscrit autographe qui avait été donné au copiste. Mais deuxième épisode, cette seconde écriture est évanouie, aussi liée au contexte des guerres de religion, au moment où Jean de Léry doit s'enfuir de la Charité sur Loire, où il était pour la ville de Sancerre, et il vivra pendant la Saint-Barthélemy, donc cette fuite depuis la Charité sur Loire, le refuge à Sancerre, qui avait été pris par les protestants et qui est assiégé pendant l'année 1574, et Léry écrira et publiera une histoire mémorable de la ville de Sancerre qui raconte ce siège. Et finalement, en 1576, il récupère le manuscrit égaré, perdu ou confisqué à Lyon, et donc a la possibilité de le publier. Mais, deuxième élément de la préface, à ce récit de publication qui, comme vous voyez, est marqué par l'idée d'un manuscrit qui disparaît deux fois, mais qui réapparaît, comme s'il y avait une sorte de volonté plus puissante que celle de l'individu qui voulait que ce texte existe. Le deuxième élément, c'est qu'il justifie la publication en 1578 comme une réponse directe à la cosmographie universelle de Thévée publiée en 1575, puisque, à la différence des singularités de la France antarctique, Thévée, dans la cosmographie universelle, attaque, critique les pasteurs protestants, Richier et Chartier, qui étaient là, à la France antarctique, et en même temps les accuse de sédition, une sédition qu'ils auraient menée contre Villegagnon et contre lui aussi, Thévée, dont la vie aurait été menacée. Pour Léry, il s'agit de dénoncer ce qu'il considère comme une série d'impostures et de falsification de la part de Thévée. Et toute la préface, il montre, un, que Thévée avait quitté depuis 13 mois la Brésil lorsque les calvinistes y sont arrivés, que deux, il y a bien eu une sédition contre Villegagnon, mais elle est antérieure à l'arrivée des calvinistes et elle était liée aux compagnons de Villegagnon, en particulier ce qu'on appelait les truchements, ces marins normands qui avaient l'habitude de commercer avec le Brésil, mais qui ne supportaient pas la loi que voulait imposer Villegagnon de leur interdire de fréquenter les femmes Tupinamba, et donc se soulève contre lui. Et la preuve, on voit ici aussi l'introduction de l'idée de preuve documentaire, et que Léry cite dans sa préface une lettre que Villegagnon a envoyée à Calvin pour lui expliquer cette sédition. Et du fait, finalement, troisièmement, s'il y a eu rupture entre Villegagnon et les calvinistes, c'est parce que Villegagnon a trahi la foi protestante qui semblait être la sienne, comme le montraient les relations qu'il avait avec Calvin, et basculant totalement du côté du catholicisme, a obligé les protestants à quitter Fort Coligny pour s'installer parmi les Indiens Tupinamba dans la baie de Guanabara. Et certains des calvinistes ont voulu retourner dans le Fort Coligny, et Villegagnon en a fait exécuter, massacrer trois d'entre eux qui deviennent des martyrs de la cause protestante. Donc une dénonciation de ces impostures de Thévée, dans le récit même de l'histoire de la France antarctique et des tensions, des conflits entre protestants, calvinistes et catholiques, avec ce basculement de Villegagnon. Mais plus fondamentalement, pour rejoindre notre point de départ, ce qui est en cause dans le texte de Léry, c'est la crédibilité que l'on doit ou non doit pas accorder au récit de Thévée, cosmographe devenu cosmographe du roi, et dont il désigne les affirmations comme des, je cite Léry, des fariboles du royaume de la Lune ou des contes de la cigogne. Et pour attaquer, pour saper la crédibilité de Thévée, il montre, un, que Thévée n'a passé que 10 semaines au Brésil et la plupart du temps enfermé dans l'île inhabitable qui était le lieu où le fort Coligny avait été installé, et que donc Thévée ment lorsqu'il prétend avoir vu, oui, remarqué, non seulement pour le monde des Tupinamba, mais pour le Brésil tout entier, les mœurs des nations qui habitent. Donc il n'y a pas de possibilité de cette observation directe qui est la garantie du vrai. Et deuxièmement, qu'il ment aussi lorsqu'il dit qu'il connaît les langues indiennes, puisque Léry prend des exemples qui montrent très clairement qu'il n'en est rien, alors que lui, et c'est important dans le titre de 1580, qu'ensemble les mœurs et façons de vivre étanches des sauvages américains avec un colloque de leur langage, c'est-à-dire que le chapitre 20 est un colloque en langue sauvage et français, et c'est un des textes qu'a étudié de très près, que ma collègue amie Andrea Daher, professeur à Rio, dans un livre qu'elle a publié en 2012, « Oralidad perdida », l'oralité perdue, et qui est fondée sur cette question de l'incorporation des langues indiennes dans les relations des voyageurs occidentaux, à commencer par les riz, et ce dialogue qui est un dialogue mené en français et en langue sauvage, c'est-à-dire en langue tupinamba, et qui constitue un chapitre entier du livre. Il s'agit donc de détruire la crédibilité de Tevé sur ce fond de conflit religieux, avec, en lui opposant l'authenticité de la relation de les riz, qui est fondée sur la vue et l'expérience, et qui, d'autre part, ne concerne que l'endroit où j'ai demeuré environ un an. Récusation à la fois des cosmographies comme compilation, récusation des prétentions universelles des cosmographies. On est très proche de ce que dit Montaigne lorsqu'il oppose la cosmographie à la topographie. Et finalement, là aussi, une homologie, pas forcément un rapport autre que là, mais une homologie entre critères de crédibilité utilisés par les riz contre Tevé, en particulier le Tevé de la cosmographie universelle, et les critères de crédibilité, comme on l'a vu, qui sont ceux qui, pour Montaigne, définissent le véritable témoignage, le témoignage sur le vrai. Et s'esquisse aussi, à la fin de la préface, la comparaison entre « par-delà » et « par-de-ça », c'est-à-dire entre le monde brésilien et le monde français, dans la mesure où ce que met en place les riz, c'est cette idée que pour croire en l'incroyable, et qui pourtant est le vrai, seule l'autopsie, le voir par soi-même, est une garantie. Et pour Léry excuse ainsi la façon dont il écrit, c'est-à-dire « j'eus si souvent de cette façon de parler, je vis, je me trouvais, cela m'advint, et choses semblables », et il dit que c'est cela son propre sujet, c'est-à-dire de vue ou d'expérience, de choses que nul n'a jamais remarquées si avant que j'ai fait, moins s'en trouve-t-il par écrit. Donc la tradition de l'autorité scripturaire est de faible valeur par rapport à ce qui est vu, et même ce vu peut dépasser ce qui serait des critères classiques de la vraisemblance. C'est un peu l'idée que le vrai ne peut ne pas être vraisemblable, ce qui amène Cléry à dire qu'il a révisé sa position par rapport à ce qu'il avait lu dans Pline, et qui lui paraissait impossible, et que peut-être, en fait, cet impossible était vérité, et ce qui l'amène aussi à dire que par rapport à son lecteur, il ne se donnera pas la peine de l'emmener pour lui prouver la vérité, puisque la certification de son témoignage doit suffire. C'est-à-dire une sorte de impossibilité à convaincre les sceptiques, pourtant, de ce qui est une chose réelle. Alors, pourquoi le parallèle? C'est parce qu'il dit « car si ceux dont je parle n'ajoutent foi à ce qui, au vu et au su… » Alors, pardon. Pourquoi le parallèle? Pour la raison suivante. S'il se trouve quelqu'un qui ne veut y ajouter foi à plusieurs choses, voire étranges, qui se liront en cette histoire, qu'il sache, quel qu'il soit, que je ne suis pas pour cela délibéré de le mener sur les lieux pour les lui faire voir, tellement que je ne m'en donnerai non plus de peine, que je fais de ce qu'on m'a dit qu'aucun doute de ce que j'ai écrit et fait imprimer par-ci devant du siège et de la famine de Sancerre, laquelle cependant, comme il sera vu, je puis assurer n'avoir encore été si âpre, bien plus longue toutefois que celle que nous endurâmes sur mer à notre retour en France au voyage dont est question. Car si ceux dont je parle n'ajoutent foi à ce qui, au vu et au su de plus de 500 personnes encore vivantes, a été fait et pratiqué au milieu et au centre de ce royaume de France, comment croiront-ils ce qui, non seulement, ne se peut voir qu'à près de 2000 lieues loin du pays où ils habitent, mais aussi, chose si émerveillable et non jamais connue, moins écrite des anciens, qu'à peine l'expérience les peut-elle engraver en l'entendement de ceux qui les ont vues. voyez que le parallèle s'établit par le fait qu'il y a un scepticisme autour de ce qu'ont été les atrocités, les cruautés de ce siège de Sancerre en 1572, relaté par Léry dans son livre de 1574, et ce qui est témoignage sur ce monde-là. L'impossibilité de convaincre les sceptiques est pourtant la nécessité de croire en l'attestation de ce qui est incroyable. Dans le texte de Léry, pour arriver au cannibale de Montaigne et pour poser la question de savoir dans quelle mesure Montaigne incorpore aussi comme une couche de texte la référence à Léry, l'anthropophagie apparaît trois fois. Elle apparaît d'abord au chapitre 5, lorsque le titre en est « Du découvrement et première vue que nous eûmes, tant de l'Inde occidentale ou terre du Brésil, que des sauvages habitant Icel. » Il s'agit là d'une description de sauvages qui ne sont pas encore les Tupinambas, puisque Léry n'est pas encore arrivé dans la baie de Guanabara. Il s'agit des descriptions des différentes nations indiennes qui, le long des côtes, sont perçues et qui ensuite sont décrites à Léry. Et c'est la description de cette nation qui est celle des Huetacas. Et les Huetacas ont cette caractéristique, je cite, « Combien que, ainsi que tous les autres Brésiliens, ils aillent entièrement nus, si est-ce néanmoins que contre la coutume plus ordinaire des hommes de ces pays-là, lesquels, comme j'ai dit, et dirais encore plus simplement, se tondent le devant de la tête et rognent leur perruque sur le derrière, eux portent les cheveux longs et pendant jusqu'aux fesses. Bref, ces diablotins d'Huetacas, demeurant invincibles en cette petite contrée, et au surplus comme chiens et loups, mangeant la chair crue, même leur langage n'étant point entendu de leurs voisins, doivent être tenus et mis au rang des nations les plus barbares, cruelles et redoutées qui se puissent trouver en toute l'Inde occidentale et terre du Brésil. Au reste, tout ainsi qu'ils n'ont ni ne veulent avoir nulle acquaintance ni trafic avec les Français, Espagnols, Portugalais, ni autres de ces pays d'outre-mer, de part de ça, aussi ne savent-ils que c'est de nos marchandises. La première description de ce peuple, de cette nation, Huetaca, est la nation de la description de la barbarité la plus forte, la plus cruelle et redoutée, avec ses deux traits, en dehors du fait qu'ils se portent les cheveux différemment des autres nations et que leur langue n'est pas entendue. Un, le fait qu'ils mangent la chair crue, donc sans en ignorance des techniques ou des rituels culinaires, et deux, qu'ils refusent tout trafic avec les Européens et ont un trafic très limité avec leurs voisins, où on retrouverait l'idée ici du commerce comme élément de civilisation. Et les Huetacas sont en dehors de ce processus puisqu'ils refusent tout commerce avec les autres et en particulier avec les Européens. Donc un point de référence de l'anthropophagie qui est lié à la barbarie la plus extrême, c'est-à-dire de manger la chair crue. Ce qui amène dans un sens la deuxième présence de l'anthropophagie dans le texte au chapitre suivant, le chapitre 6, de notre descente au fort Coligny en la terre du Brésil. Décrivant ce qui advient avec l'arrivée des protestants, Léry focalise l'attention sur les tensions entre Villegagnon, qui a commencé à s'éloigner de ses inclinations réformées, et d'autre part les pasteurs et les calvinistes qui viennent d'arriver. Et l'enjeu, comme vous pouvez l'imaginer, c'est évidemment l'enjeu autour de la célébration de la scène ou de la messe. Et la scène que décrit Léry a lieu le 21 mars 1557 avec une incertitude de Villegagnon qui, pour Léry, ne sait plus très bien à quelle théologie se vouer. Lui, Léry, et puis, lui, Villegagnon, et puis un de ses plus proches compagnons qui s'appelle Quinta, qui est un ancien docteur de théologie de la Sorbonne, mais qui a embrassé qui avait embrassé le protestantisme et qui suit aussi Villegagnon dans ses incertitudes. Donc, pour cette cérémonie que Léry désigne comme la scène, voilà ce qu'il dit de Villegagnon et de Quinta. Par combien, qu'il rejetasse la transsubstantiation de l'Église romaine, comme une opinion laquelle il disait ouvertement être fort lourde et absurde, et qu'il n'approuvasse non plus la consubstantation, si ne consentait-il pas pourtant à ce que les meuniers enseignaient et prouvaient par la parole de Dieu que le pain et le vin n'étaient point réellement changés au corps et au sang du Seigneur, lequel aussi n'était pas enclos dans Isseux, mais que Jésus-Christ est au ciel, d'où, par la vertu de son Saint-Esprit, il se communique en nourriture spirituelle à ceux qui reçoivent les signes de la foi. Donc, une incertitude, puisque Villegagnon et Quinta refusent bon, la théologie catholique, ceci est mon corps et mon sang, donc une présence réelle. Il refuse aussi cette intermédiation qui avait été inventée au moment encore possible d'une refus de brisure entre les confessions, qui était la consubstantiation, considérer que le pain et le vin étaient à la fois symboliques et réels. Et en même temps, il refuse l'enseignement des ministres, c'est-à-dire des pasteurs, qui est l'enseignement calviniste, c'est-à-dire le fait que le pain et le vin sont des signes. Or, quoi qu'il en soit, disaient Villegagnon et Comtois, ces paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang » ne se peuvent autrement prendre sinon que le corps et le sang de Jésus-Christ y soient contenus. Que si vous me demandez maintenant « comment donc, vu que tu as dit qu'il rejetait les deux suscites opinions de la transsubstantiation et consubstantiation, l'entendait-il ? Certes, comme je n'en sais rien, aussi crois-je fermement que ne faisaient-ils pas eux-mêmes ? Car quand on leur montrait par d'autres passages que ces paroles et locutions sont figurées, c'est-à-dire que l'Écriture a accoutumé d'appeler et de nommer les signes du sacrement du nom de la chose signifiée, combien qu'ils ne puissent répliquer chose qui puisse subsister pour prouver le contraire, si ne laissaient-ils pas pour cela de demeurer opiniâtres, tellement que sans savoir le moyen comment cela se faisait, ils voulaient néanmoins, non seulement grossièrement, plutôt que spirituellement, manger la chair de Jésus-Christ, mais qui pis était à la manière des sauvages nommés Ouetacas, dont j'ai parlé ci-devant, il la voulait mâcher et avaler toute crue. C'est-à-dire que là, le rapport se fait immédiatement entre ce refus de considérer le pain et le vin comme signe, comme figure, doctrine calviniste, mais de les considérer dans la forme de la présence réelle, de la transsubstantiation qui transforme une matière en une autre, et à partir de là, le fait de considérer l'hostie comme le corps et le sang, donc, finalement, de ramener, au moins dans cette perspective, l'Eucharistie au cannibalisme. Et les catholiques, représentés maintenant par Villegagnon, qui a abandonné la réforme, sont comme les Ouetacas qui mangent la chair crue, qui la mâchent et l'avalent. C'est un argument qui, évidemment, va être fondamental et est fondamental dans les controverses autour de la scène ou de la messe, entre la présence symbolique qui est celle du signe et la présence réelle qui est celle de la transformation du vin et du pain, et qui, d'ailleurs, restera même au XVIIIe siècle un élément. On a souvent commenté l'article de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, Anthropophage, et qui se termine par un renvoi, voyez Eucharistie. Communion, autel. Et premièrement, sans considérer que cet renvoi est déjà présent dans le texte que traduisait pour partie l'encyclopédie, c'est-à-dire la Cyclopédia de Chambers, et que peut-être il y avait mis une intention ironique là où, en fait, dans la définition, c'était pour montrer que ces accusations qui considéraient que l'Eucharistie était l'équivalent de l'anthropophagie, était, comme dit l'article de l'encyclopédie, fondé sur des notions vagues et sur des discours de gens mal instruits. Mais reste l'ambiguïté de cette référence entre un article qui a pour titre « Anthropophage » et qui se termine par, vous voyez, « Eucharistie »,« Communion »,« Autel », etc. Donc c'est la deuxième référence, la troisième, plus classique, c'est le chapitre 15, comment les Américains traitent leurs prisonniers pris en guerre et les cérémonies qu'ils observent tant à les tuer qu'à les manger. Je ne vais pas reprendre pour une troisième fois la description parce qu'elle est tout à fait classique. Elle reprend toutes les étapes que l'on a vues avec Staden, non connu de Montaigne, et Tevey, lu, critiqué, mais utilisé par Montaigne, en particulier avec peut-être l'impact de ces deux images présente en 1557, reprise en 1575. Donc Léry reprend les moments du rituel. J'insiste simplement sur quelques particularités du texte de Léry. La première, c'est, comme il le disait dans sa préface, l'insistance sur le témoignage direct. Un jour que j'étais en un village, m'étant un jour inopinément trouvé dans un village, j'en ai vu, j'ai entendu des vieillards, un dialogue qu'il a avec une femme. Donc à la fois une présence de la parole de l'autre dans le texte et en même temps l'attestation contre les fariboles de la lune de Tevey de l'authenticité du témoignage. Deuxième élément, c'est la réfutation d'erreurs communes et qu'il réfère ici à des cartes universelles et qui ont fixé, mais à son avis de manière totalement erronée, deux images autour de l'anthropophagie des cannibales, Tupinamba. D'une part, l'image du corps cuit à la broche, et d'autre part, l'image de la boucherie cannibale, où l'on voit que dans des vignettes d'iconographie qui accompagnent un certain nombre de cartes et de cosmographies, comme un étal de viande humaine. Léry récuse absolument ces deux images, considérant qu'il y a là, dans les atlas, et on pourrait trouver sans doute dans l'atlas de Valar de 1547 cette représentation, et en tous les cas la boucherie cannibale, on la trouvait dans l'atlas de Le Testu, que j'ai commenté rapidement la fois dernière, et pour lui, l'authenticité de la description doit être envoyée à ce qu'il a montré au chapitre 10, c'est-à-dire que les Indiens rôtissent et cuisent les mets, quels qu'ils soient, y compris la chair humaine, à partir de ce qu'ils appellent le boucan, ou qu'ils appellent le boucan, c'est-à-dire une grille de bois qui est avec un petit feu qui est placé en dessous, en ignorant totalement d'autres formes de cuisson. Quel est l'enjeu de cette remarque ? C'est de réaffirmer à nouveau l'authenticité seulement du témoignage par rapport à ce qu'il appelle des choses pas plus vraies que le conte de Rabelais touchant Panurge qui échappa à la broche tout lardé et à demi-cuit. Et on retrouverait dans la plume de Léry, qui est très pittoresque dans un sens, vous avez vu l'image de la lune, l'image des contes de la cigogne, ici la référence à Rabelais qui est effectivement introduit dans la fiction, le thème de l'anthropophagie, mais ici cette manière ridicule de Panurge, pour de nouveau établir cette césure fondamentale pour lui, qui est un élément clé dans l'intention du livre, et qui est de récuser les calomnies de Tevey. Et puis, il y a surtout dans Tevey, dans Léry, l'interprétation qui va être au cœur de Montaigne, c'est-à-dire l'interprétation sur la vengeance comme la clé, et non pas l'alimentation, comme la clé de la compréhension de ces rituels cannibales. Non pas cependant, alors il décrit cela, chacun ayant son morceau, non pas cependant ainsi qu'on pourrait estimer qu'il fasse cela ayant égard à la nourriture, car combien que tout ce qu'on fait cette chair humaine être merveilleusement bonne et délicate, tant il y a néanmoins que plus par vengeance que pour le goût, leur principale intention est qu'en poursuivant et rongeant ainsi les morts jusqu'aux os, ils donnent par ce moyen crainte et épouvantement aux vivants. Donc l'interprétation ici renforce ce qui était suggéré par Tevey, du coup, il y a là un autre trait. Mais la plus forte originalité de Léry, qui n'est présente dans aucun des textes précédents, c'est la construction de la comparaison entre la cruauté des sauvages de par-delà et les cruautés qui sont parmi nous, c'est-à-dire dans le monde de par-de-ça, le monde de Léry lui-même. Et on n'est pas seulement devant une comparaison avec des barbaries anciennes, comme par exemple les Scythes qu'on trouvait chez Thévet et qu'on retrouverait d'ailleurs chez Montaigne. La force du texte de Léry est liée à ce diptyque qui, introduit d'abord par un trait qui est les différentes relations des Européens dans la France antarctique avec l'anthropophagie, puisque Léry oppose sa propre attitude et celle de beaucoup d'autres des nôtres qui ont refusé de partager les repas que leur proposaient les Tupinambas, et inversement, le constat des franchissements possibles de cette différence par quelques truchements de Normandie, donc marins, pilotes, marchands normands installés au Brésil ou emmenés avec Philippe Gagnon, dit-il, qui avait demeuré 8 ou 9 ans dans ce pays-là, donc qui était antérieurement installé dans ce cas-là, et qui partageait ce rituel de l'anthropophagie qui était celui des nations du lieu. Et en fait, à ce moment-là, se brouille la distinction entre nous et eux, puisque les Normands deviennent des Tupinambas. Et donc, il y a là une introduction du thème de la comparaison à partir de ce franchissement de la frontière. Léry va le renforcer après avoir accumulé des descriptions des cruautés des Tupinambas. Et dans le chapitre, il va prendre, comme il le dit, trois exemples. Je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis. Et il a pris trois exemples qui sont presque à entendre au sens d'exempla. C'est-à-dire, si on admet que son texte a la structure d'une, sinon d'un prêche, comme il va se terminer, que les exemples ont des valeurs illustratives d'une vérité plus générale. Dans ce cas-là, les cruautés des Indiens. Les trois exemples sont le massacre et la dévoration de tout un village de leurs ennemis margajas, mais qui pourtant s'était rendu, sont le massacre et la cuisson et la dévoration d'un Indien baptisé, mais qui était revenu au pays Tupi, qui s'appelle Anthony, et finalement, qui c'est le massacre de deux Portugais. Donc, de là, je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis, n'était qu'il me semble que ce que j'en ai dit est assez pour faire avoir horreur et dresser à chacun les cheveux en la tête. Et suit ensuite la phrase, et peut-être le mot le plus important de tout le texte de Léry, et qui peut avoir une projection dans le texte de Montaigne, néanmoins, et c'est ce néanmoins qui est peut-être le mot le plus important, néanmoins, afin que ceux qui liront ces choses tant horribles exercées journellement entre ces nations barbares de la terre du Brésil pensent aussi un peu de près à ce qui se fait par-de-ça parmi nous. Et à partir de là, la fin du chapitre va être cette comparaison, renversement, même stratégie scripturaire que l'on a vue chez Montaigne, qui va installer par-de-ça, parmi nous, une cruauté égale, sinon plus grande, que celle que l'on désigne dans le monde des Tupinambas. Et Léry convoque dans l'édition de 1578, après il va l'enrichir considérablement, mais dans l'édition de 1578, à la fois la métaphore et la réalité de l'anthropophagie dans le monde de ça, c'est-à-dire son monde, le monde de la France du XVIe siècle. La métaphore, elle est biblique, il emprunte au prophète Michée 3:3 ce qu'il cite de cette manière-là, qui est un peu paraphrase, Voici pourquoi le prophète dit que de tels gens, il les a désignés comme les usuriers, écorchent la peau, mangent la chair, rompent et brisent les os du peuple de Dieu, comme s'il les faisait bouillir dans une chaudière. C'est-à-dire ici, c'est le sens métaphorique de la dévoration qui est évoqué, et qui d'ailleurs, dans le texte du prophète, Michée, est un texte qui porte sur les usurpateurs de terres, de domaines, qui réduisent à la misère ceux de qui ils usurpent les terres. Et là, basculer par les riz sur les usuriers, je dirais en premier lieu sur cette matière que si on considère à bon escient ce que font nos gros usuriers, suçant le sang et la moelle, et par conséquent mangeant tout en vie tant de veuves, orphelins et autres pauvres personnes auxquelles il vaudrait mieux couper la gorge tout d'un coup que de les faire ainsi languir, qu'on dira qu'ils sont encore plus cruels que les sauvages dont je parle. De la métaphore, il passe à la littéralité en rapportant trois ensembles de cas d'anthropophagie, l'un dans ce qu'il appelle les histoires, et qui sont des récits de cœur ou de foie mangé, tant en Italie qu'ailleurs. Et là, il faut comprendre que histoire renvoie à histoire tragique, c'est-à-dire essentiellement les histoires tragiques ou nouvelles de Bandello, qui sont une référence fondamentale pour le monde des lecteurs français dans les traductions de Belleforêt et de Boaistuau. Et histoire ici n'est pas le sens de chronique, il a le sens de ces histoires tragiques, mais qui ne sont pas nécessairement séparées de l'idée de renvoi à ce qui est advenu. Et puis, progressant de la littéralité, de la métaphore biblique à la littéralité de l'histoire, il en vient au témoignage direct sur son propre temps. Je m'en rapporte aux histoires. Et sans aller plus loin, en la France, quoi ? Je suis français et me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572, dont je n'accuse point ceux qui n'en sont pas cause, entre autres actes horribles à raconter, qui se perpétrèrent lors partout le royaume, la graisse des corps humains, qui, d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent massacrés dans Lyon, après être retirés de la rivière de la Saône, ne fut-elle pas publiquement vendue aux plus offrants et derniers renchérisseurs ? Les foies, cœurs et autres parties des corps de quelques-uns ne furent-ils pas mangés par les furieux meurtriers dont les enfers ont horreur ? Semblablement, après qu'un nommé cœur de roi, faisant profession de la religion réformée dans la ville d'Auxerre, fut misérablement massacré, ceux qui commirent ce meurtre ne découpèrent-ils pas son cœur en pièces, l'exposèrent en vente à ses haineux, et finalement, l'ayant fait griller sur les charbons, assouvissant leur rage comme chiens matins en mangèrent. Il y a encore des milliers de personnes en vie qui témoigneront de ces choses, non jamais auparavant oui entre les peuples, quels qu'ils soient, et les livres qui dès longtemps en sont déjà imprimés et en feront foi à la postérité. Et donc il y a le double registre de référence à la Saint-Barthélemy et à, non seulement à Paris, mais aussi à, dans les villes de France, à commencer par Lyon. Et d'autre part, cette référence à ce cœur de roi, qui est une référence qui, dans l'édition de 1578, a une référence en marge, Histoire de notre temps. Il s'agit d'un livre publié en 1570 qui a pour titre Histoire de notre temps, contenant un recueil des choses mémorables passées et publiées par le fait de la religion et état de la France depuis l'édit de pacification du 23e jour de mars 1568 jusqu'au jour présent 1570. Et dans ce livre, on rencontre, comme on rencontrera plus tard dans les mémoires de Lanoux, la description de la prise par les protestants de la ville d'Auxerre, de la reconquête par les catholiques et de cet fait que ce protestant, cœur de roi, qui était un mesureur de grains au marché d'Auxerre, a été massacré comme étant l'un des plus notables huguenots Et Lanoue, dans les mémoires qui datent de la fin du siècle, donc qui n'était pas connu par Léry, mais ce qui était connu par Léry, c'était le récit dans ce livre que je viens de mentionner, de 1570. Lanoue dit qu'on le coupa en petits morceaux et qu'il fut exposé en vente. Le texte ajoute qu'il y a eu des gens assez brutaux pour le mettre sur le charbon et le manger à demi grillé. Et dans l'histoire de la prise et reprise du texte d'Auxerre, il y a cette figure de l'anthropophagie contre un des plus notables protestants. Donc, Léry achève le chapitre sur l'histoire du temps présent. On est en 1578, il évoque la Saint-Barthélemy, 1572, et pour ce qui est advenu à Auxerre, les événements de 1567-1568. On voit qu'à partir de ce moment-là, l'inversion s'est opérée, que les cruautés de par-de-ça l'emportent sur les cruautés de par-delà, et la raison en est donnée dans le dernier paragraphe. Par quoi ? Qu'on aborde plus tant désormais la cruauté des sauvages anthropophages, c'est-à-dire mangeurs d'hommes, car puisqu'il y en a de tels, voire d'autant plus détestables et pires au milieu de nous, que qui, comme il a été vu, ne se rue que sur les nations lesquelles leur sont ennemis. Et ceux-ci sont plongés au sang de leurs parents, voisins et compatriotes. Il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays ni qu'en Amérique pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses. C'est-à-dire l'idée qu'on revient à l'interprétation de l'anthropophagie sauvage par la vengeance liée à la guerre, alors que dans le monde de par-de-ça, les mêmes faits sont pires dans la mesure où ils sont ceux qui sont commis aux dépens de parents, de voisins et de compatriotes. Ce qui peut donc nous amener, en admettant que la présence du texte de Léry est attestable dans le texte des cannibales de Montaigne, il y a un dernier, je termine avec ça, un dernier commentaire sur le chapitre 31. Où on voit que la reprise finalement de la stratégie discursive de Léry, qui est de montrer que la sauvagerie est peut-être pire là où on pense qu'elle n'est pas, que là où on la décrit et où on la trouve. Et la stratégie de Montaigne est d'abord de créer le parallèle en disant qu'il est pire de manger un homme vivant que de manger un homme mort. L'homme mort, c'est le cadavre du prisonnier d'Amérique, de la France antarctique, et l'homme vivant, c'est cette sorte de déchaînement de cruauté sur les ennemis au sein des guerres de religion. Et comme il le dit, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîches mémoires. Il y a, cette idée est pratiquement aussi une citation du texte de Léry, dans la mesure où Montaigne reprend cette idée que dans le cas des sauvages, cette violence est sur des corps morts et contre des ennemis anciens, alors que dans le monde qui est le sien, elle est sur des hommes vivants et qui sont des voisins, le même mot que chez Léry, et des concitoyens, et ce qui est pire encore, sous prétexte de religion. La deuxième stratégie, donc, du coup, de Montaigne, c'est une stratégie que l'Estringant a qualifiée d'atténuation, puisque non seulement il y a, comme vous l'avez vu, une seule phrase sur l'idée « il le rôtisse et il le mange », mais il y a aussi l'idée de mobiliser des autorités qui ont justifié la consommation de chair humaine, certaines comme pour raisons philosophiques, c'est le cas des stoïques, d'autres pour des raisons d'urgence, c'est la description qu'on fait de ce qui s'est passé lors du siège d'Alésia, ou enfin des médecins qui sont aussi convoqués pour cette idée dans le cas d'extrême nécessité. Ce qui d'ailleurs est assez contradictoire avec le propos de Montaigne, puisqu'il ne s'agit pas ici, il s'agit de justifier dans ces trois cas, au moins le cas du siège d'Alésia et le cas des recommandations médicales, un cannibalisme de nutrition, lorsque rien d'autre n'est disponible. Alors qu'on l'a vu, le modèle de la description du monde des par-delà, c'est un modèle d'abondance, donc il n'y a pas de nécessité de cannibalisme d'alimentation, et c'est d'autre part un modèle dans lequel le motif de l'anthropophagie est entièrement lié avec une valeur, celle de la vengeance. À partir de cet moment, le renversement qu'opère Montaigne, c'est de situer cette anthropophagie à l'intérieur d'un cadre plus général, et qui est justement celui qui éloigne les peuples, les nations de la France antarctique de toute dimension de sauvagerie et de barbarie. Il revient sur le fait que chez eux, la guerre ne se fait que pour la gloire, pas pour la rançon, pas pour la conquête, pas pour l'intérêt. La seule justification ou la seule fin de la guerre est faire reconnaître par le vaincu sa défaite. Et en même temps, face à cela, une deuxième raison de ne pas considérer comme sauvage ou barbare cette pratique, c'est la fermeté ou la vaillance des vaincus qui refusent de reconnaître leur défaite. Et c'est en ce contexte qu'il citait la chanson de défi du prisonnier qui va mourir et être mangé contre ceux qui ont été ces vainqueurs. Et de ce point de vue, il y a une addition intéressante dans l'exemplaire de Bordeaux, qui est une assez longue intention d'amplification, et qui est une allusion à Léonidas résistant aux Thermopyles, et puis d'autre part tiré de Diodore de Sicile, un deuxième exemple d'un combat désespéré par un capitaine qui s'appelle Iscolas, même s'il est voué à la défaite, la bravoure et la vaillance de la résistance, c'est-à-dire en fait la gloire présente dans la défaite, plus encore que dans la victoire, qui est référée avec ce comportement de défi de l'Indien défait qui résiste par la parole. Et au moment d'ailleurs où dit Montaigne, au moment de ceux qui l'attachent par les cordes, le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant la moue. Et du coup, on voit bien qu'on retrouve cette idée qui me semble fondamentale dans l'essai, pas toujours commentée, c'est le fait que les Indiens sont les anciens, l'équation se multiplie dans plusieurs instances, et en particulier ici, puisque les comportements des sauvages dans la guerre, et en particulier dans la vaillance et la bravoure de la défaite, sont ceux que l'on rencontre dans le meilleur de la tradition ancienne. Et la fin de l'essai est marquée par cette équation entre les sauvages comme les anciens, non seulement dans cette forme guerrière, mais aussi lorsque Montaigne évoque les relations entre hommes et femmes et les relations amoureuses, il dit qu'il possède aussi une autre chanson, qui n'est pas simplement, il n'a pas seulement cette chanson de défi du vaincu, mais une chanson qui est une chanson d'amour. Il la caractérise comme « J'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci, que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait anacréontique ». Et plus loin, dans la phrase suivante, leur langage, au demeurant, c'est un doux langage et qui a le son agréable, retirant aux terminaisons grecques. Et donc le parallèle, ou même l'identification, c'est plus qu'un parallèle, des sauvages comme les anciens, se poursuit ici en changeant de registre de la bravoure guerrière à la poésie anacréontique et finalement à la langue qui sonne comme la langue grecque, ce qui ouvrait évidemment tout à fait un champ de réflexion sur comment penser que les rapports entre les mondes sauvages et l'Antiquité, comme des conservatoires, comme des répétitions, comme des incarnations parfaites, plusieurs possibilités étaient ouvertes. Alors, je termine avec le dernier paragraphe, puisque dans les essais de 1578, c'est un texte continu. C'est le dernier pas qui fait que le monde de la France antarctique va au-devant de Montaigne, ou que d'une certaine manière, Montaigne est mis en contact direct. C'est le récit qui commence par trois d'entre eux, c'est-à-dire trois membres de cette nation de la France antarctique, sont arrivés à Rouen en 1562, au temps de la minorité de Charles IX. On connaît bien une fête avec une cinquantaine d'Indiens Tupinambas en 1550, qui avait eu lieu à Rouen et qui est une forme d'entrée royale où, comme dans les entrées royales, il y a de véritables sauvages qui jouent leur rôle, mais aussi des Normands devenus Tupinambas. Une autre forme de cet effacement de la frontière telle qu'on l'avait rencontrée autour de la pratique de l'anthropophagie. Ici, il s'agit de quelque chose de différent. Je n'ai pas pu retrouver ou pas fait la recherche sur la nature de la fête de 1562, mais la présence de trois Indiens toupis qui sont là présents. Et le point important dans la description de Montaigne, c'est l'échange de paroles, c'est-à-dire la circulation de la parole. Premièrement, le roi parla à eux longtemps, donc le dialogue entre le roi de France et les trois Indiens Tupinambas. Deuxièmement, quelqu'un demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable dans cette arrivée en France, dans le cadre de cette fête ou entrée royale. Et troisièmement, je parlais à l'un d'eux fort longtemps, que les autres nommaient comme capitaine ou comme roi, mais malheureusement pour Montaigne, la nécessité du truchement du traducteur fait que le dialogue devient compliqué, et ce truchement est à la fois nécessaire mais en même temps que destructeur. Donc trois dialogues, ou trois formes de dialogue, les deux plus importants étant évidemment, puisqu'on ne sait pas ce que le roi leur a dit ou ce qu'ils ont dit au roi, ce quelqu'un qui a rapporté à Montaigne ce que les Indiens avaient dit sur la France est tout à fait intéressant, puisque ici il y a une inversion de l'étrange. Pour eux, l'étrange réside dans le fait que, je cite, ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que dans de grands hommes portant barbe, forts et armés qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Donc une inversion des relations naturelles du degré des âges qui fait qu'ici, un enfant commande à des hommes forts. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités et que leur moitié était mendiant à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté, et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Autre inversion d'une réalité naturelle qui a été décrite dans la matrice de l'âge d'or, c'est-à-dire l'inversion de l'égalité de la distribution des richesses. Donc, l'étrange, dans le premier cas, l'obéissance des hommes forts à un roi enfant, dans le deuxième cas, l'acceptation par ces moitiés d'hommes totalement démunis de la domination exercée par ceux tout à fait enrichis et dotés de biens. Il y a une troisième raison, et qui a donné lieu à beaucoup de commentaires, puisqu'il dit « ils répondirent trois choses d'où j'ai perdu la troisième ». Est-ce que la troisième, c'était perte de mémoire, ou est-ce que c'était, comme le pensent certains commentateurs, qu'elle avait à voir avec la religion et qui aurait été un troisième trait d'étrangeté? Le dialogue difficile, par truchement interposé de Montaigne avec ce capitaine, et nos matelots le nommaient roi, et une réponse qui va dans le même sens, puisque, je vais citer, puis ça sera pratiquement la dernière citation, « je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus tirer guère de plaisir. sur ce que je lui demandais, quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi. Il me dit que c'était marcher le premier à la guerre, de combien d'hommes il était suivi. Il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait. En une telle espace, ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela, que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois, par où il put passer bien à l'aise. C'est-à-dire cette idée de retour à une égalité première, qui n'est pas contradictoire avec un chef de guerre, mais dont la caractéristique est la bravoure, puisqu'il marche en premier, suivi par les hommes, et cette autorité qui n'est ni consubstantielle à une condition sociale, ni liée à la permanence d'une fonction administrative et politique, mais qui est liée à la circonstance, puisqu'elle disparaît, sauf le maintien du respect, lorsque la guerre est finie. Et dans ces réponses de ces deux, des trois dialogues, des trois Indiens avec Toupie, avec les gentilshommes ou Montaigne, qui les ont rencontrés à Rouen en 1562, est tout entier fondé sur le retour à l'idée du naturel, qui est l'idée du naturel du degré des âges, du naturel de l'égalité parfaite, et qui est constamment violée, brisée par l'état de la société. Et du coup, la dernière phrase si fameuse, « Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi ? Il ne porte point de haut de choses. » Merci. Bien, nous nous retrouverons peut-être, je l'espère, l'année prochaine pour la suite de cette série de cours sur la culture écrite. Oh, j'ai simplement oublié de montrer, et on va le finir avec ça, dans dans Léry, l'édition de 1578 n'a aucune image. Enfin, n'a aucune image en rapport avec le cannibalisme. Donc ce que Montaigne avait pu voir était uniquement les images des deux livres de Thévet. Dans la réédition de 1580, il y a l'addition de cette image qui répète celle que l'on a dans les deux livres de Thévet sur le prisonnier attaché et tenu par celui qu'il a capturé et son ami, et d'ailleurs avec une moindre présence des connaissants, comme écrivait Montaigne à l'arrière-fond. La seule image qu'on trouvait dans le texte de 1578, c'est l'Indien avec ses scarifications, ses incisions, parce que, je n'ai pas eu le temps de le développer, Thévet et Léry montrent qu'une fois que le massacre et la dévoration a été opérée, celui qui était le maître du prisonnier se retire pendant plusieurs jours, loin des autres, opère un jeûne et enregistre comme histoire ou trace de ce qui a été son exploit guerrier sous la forme d'incisions portées sur le corps. Et cet Indien avec les scarifications ou les incisions, on le trouve aussi chez Thévet, et c'était la seule image qui a rapport avec le massacre et la dévoration dans l'édition de 78 de Léry, qui comportait tout au plus 5 images, dont une était d'ailleurs redoublée. C'est simplement après, en 1580, une édition que Montaigne a peut-être vue, mais qui n'utilise pas dans les additions des essais, et en tous les cas qui ne peut pas avoir joué un rôle dans la première rédaction de l'essai 31, que s'introduit ce que l'on a vu, c'est-à-dire une des deux images classiques liées au cannibalisme toupie. Merci.